secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Lily Anvar avec la participation de Frédéric Lenoir. Préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Philippe Palares. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Thierry de Montbrial pour parler de la philosophie de l'action. Bonjour Thierry de Montbrial.
Bonjour.
À la fin de votre dernier livre, « Une goutte d'eau et l'océan », journal d'une quête de sens, vous écrivez « Je suis de ceux pour qui tout a un sens et qui sont sensibles au mystère. Si le nouveau millénaire commence sous de moins bons auspices que le rêve néo-hégélien de la fin de l'histoire, c'est peut-être parce qu'une crise était nécessaire pour rappeler à l'homme les fondements de sa condition. Sans doute fallait-il des signes forts au seuil d'un nouveau tsunami scientifique et technique d'où le meilleur et le pire pourraient sortir. Ces signes, il faut les reconnaître et les interpréter. Les voies pour y parvenir sont le silence, la méditation, le parler à propos, l'action avec sagesse et détermination, la persévérance. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler à propos de la manière dont on peut agir après avoir évidemment médité et étudié ce que vous vous efforcez de faire au quotidien et ce dont votre journal est précisément le reflet. En fait, c'est cette conclusion qui m'a donné l'idée de, qui m'a donné l'envie en fait de vous inviter aux Racines du Ciel, où nous sommes en effet très sensibles à ce mystère dont nous tentons de reconnaître et décrypter les signes avec nos invités. Si je devais résumer votre parcours, vos titres, vos distinctions, donner la liste de tous vos ouvrages, ce serait un peu fastidieux tant la liste est longue. Je me contenterai donc de quelques repères et j'espère que vous m'excuserez de cette concision, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on ait un entretien ensemble plutôt qu'une longue liste de tout ce que vous avez fait. Alors, vous êtes polytechnicien, enseignant et chercheur en économie et en relations internationales. Vous avez créé l'Institut français des relations internationales en 1979 et vous en assumez la direction depuis lors. Vous dirigez également le rapport annuel de l'IFRI, Ramsès, qui est la Bible, en fait, pour qui veut avoir une vue globale de ce qui s'est passé dans le monde chaque année. Vous dirigez également la revue politique étrangère. En 2008, vous avez lancé la World Policy Conference, dont vous nous expliquerez, j'espère, le fonctionnement, car je pense que ça fait partie de cette philosophie de l'action que vous essayez de mettre en place. Vous avez aussi été élu à l'Académie des sciences morales et politiques en juin 1992, et vous êtes également membre de nombreuses autres académies européennes. Et auteur d'une vingtaine de livres, vous avez publié en 2015 « Une goutte d'eau et l'océan, journal d'une quête de sens » aux éditions Albin Michel. Et puis vous avez aussi publié en Roumanie un recueil qui s'appelle juste « La pensée et l'action », qui est en fait un recueil de textes que vous aviez écrit par ailleurs ou spécialement pour ce recueil, et dans laquelle on voit se déployer justement tous vos intérêts, toute votre philosophie de vie d'une certaine façon. Parfois c'est très philosophique, parfois c'est plus économique, plus politique. En tout cas, c'est vrai que ce qui court comme un fil rouge dans tout ce que vous écrivez et ce que vous faites, c'est précisément cette quête de sens. Alors peut-être que vous pouvez d'abord, pour commencer, nous dire comment elle a commencé votre quête de sens. Est-ce que quand vous étiez jeune étudiant à Polytechnique, c'est déjà le sens que vous cherchiez dans cette école ?
Toujours. Je crois que la quête de sens m'a toujours animé. Mais si on parle de spiritualité dans un sens très large, je pense qu'il y a des gens qui ont de naissance innée en quelque sorte, le sens de dimension supérieure, de réalité qui les dépasse. Je dirais pas seulement métaphysique, mais je dirais de réalité, qui sont des réalités. Simplement, ces réalités sont inaccessibles à la plupart des êtres, mais certains ont des tout petits canaux qui leur permettent parfois d'avoir accès, d'entrevoir. Je dis bien d'entrevoir. D'entrevoir, c'est déjà voir. Mais d'autres n'ont pas ça. Alors, et puis, quand on l'a à des degrés divers. Alors, on va dire que moi, je l'ai toujours eu un peu. Et donc, cette conviction qu'il y a une réalité supérieure, c'est associé à la notion de mystère, bien sûr, puisque le mystère, c'est d'accepter cette réalité supérieure sans la voir complètement, bien sûr. Alors, moi, oui, j'ai toujours été habité de cela, mais je reconnais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout cette dimension-là. Alors, parfois, on l'a de naissance, je vous dis, c'est mon cas. Parfois aussi, il y a quelque chose dans la vie qui fait qu'on l'acquiert.
Oui, alors, vous l'aviez peut-être déjà enfant, vous l'aviez peut-être ressenti, mais vous racontez dans votre livre que vous avez aussi fait des rencontres, y compris à l'école polytechnique, qui vous ont plus particulièrement ouvert à l'idée que vous pouviez mettre en relation ce que vous faisiez dans cette école, ça veut dire des mathématiques, des sciences, etc. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas tellement l'école polytechnique étant un lieu de réflexion philosophique. Mais là, si, vous avez fait des rencontres qui vous ont permis de construire, je dirais, votre pensée à partir de ce désir de sens qui était déjà là, inné, mais qui ne demandait qu'à germer.
Alors, l'école polytechnique, bien sûr, mais enfin, avant l'école polytechnique, j'ai eu bien d'autres choses aussi, si vous voulez. J'ai toujours été passionné par l'histoire, par la philosophie, etc. Et contrairement d'ailleurs à ce que beaucoup de gens croient, l'école polytechnique, dont j'ai dirigé ensuite le département des sciences économiques pendant 18 ans, c'est pas une école du tout technique.
Oui.
C'est une école où on aborde des sujets d'une manière très fondamentale. Et moi, au-delà des sujets eux-mêmes, par exemple les mathématiques pour lesquelles j'ai toujours eu une fascination véritable, ça nous ramène d'ailleurs à Platon, hein, parce que là, c'est la vision platonicienne du monde, j'ai toujours été sensible plus encore qu'à cette discipline ou à d'autres, à l'aspect philosophique de ces disciplines. Mmh. La philosophie des mathématiques, la philosophie de la physique, par exemple, et la physique en particulier, et les mathématiques, assez paradoxalement, permettent de concevoir des réalités supérieures. Par exemple, raisonner à 4, 5, 6 ou un nombre quelconque de dimensions, c'est quelque chose qui est quasiment inconcevable pour le commun des mortels. En revanche, ça ne pose aucun problème pour un mathématicien. Mmh. Et là, il peut y avoir aussi des liens entre spiritualité et science, puisque au moins cette possibilité de raisonner à des échelles, pour simplifier, qui dépassent totalement les données immédiates de la conscience, au moins ça permet de concevoir justement des réalités englobantes. Mais ça, c'est pour certains, des gens comme vous et moi. Mais pour d'autres, la science doit être close, se suffire à elle-même, et beaucoup de scientifiques rejettent, au contraire, totalement toute dimension dépassante, englobante, et ont, à mon avis, l'illusion de s'imaginer que la science permettra de clore complètement, de fermer ou d'enfermer toute la réalité humaine, ou toute la réalité de la psyché humaine.
Oui, et c'est vrai que aussi dans le grand public, il y a cette idée que le scientifique est détenteur d'une sorte de vérité qui l'autoriserait aussi à avoir des idées, je dirais, sur le plan métaphysique, et ça lui donnerait une autorité. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec Cédric Villani, que vous citez d'ailleurs dans votre livre, que vous connaissez bien, je crois, qui me disait « Ce qui m'irrite quand je donne une conférence, c'est que les gens me demandent toujours à la fin de ma conférence si Dieu existe, comme si moi je savais si Dieu existait ou pas en tant que mathématicien. »
Ça, c'est très français. Hein.
Oui.
Non, je vous interromps, pardon, mais c'est très français, parce que en France, il y a une attitude très ambiguë, parce que d'un côté, la science n'a pas du tout l'aura qu'elle avait à la fin du 19e siècle, avec des gens comme Pasteur et bien d'autres qui étaient des héros. À ce moment-là, on croyait dans la science. Mais de l'autre, quand on est titré, et surtout avec des grands titres comme le prix Nobel ou en l'occurrence la médaille Fields, les gens croient un peu naïvement qu'il va y avoir réponse à toutes les questions. Et si vous permettez, je vais vous raconter une petite anecdote au passage. L'un de mes maîtres qui a eu le prix Nobel en économie, qui s'appelait Gérard Debreu, qui était franco-américain, et qui est celui avec qui j'ai fait ma thèse de doctorat à Berkeley, en Californie. Quand il a eu le prix Nobel, en 1983, il est passé à Paris, puisqu'il habitait en Californie, il est passé à Paris, puis tous les journalistes tombent sur lui, et à ce moment-là, il y a un problème d'inflation. C'est le problème inverse de celui qu'on a aujourd'hui. Et les journalistes lui demandent, alors, monsieur Debreu, l'inflation, comment est-ce qu'on peut vaincre l'inflation? Expliquez-nous. Et il répondait, ces choses-là sont beaucoup trop difficiles pour moi. Oui. Et c'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait la modestie de reconnaître qu'il n'avait pas étudié, il avait le prix Nobel pour quelque chose de très particulier, mais il n'avait pas plus d'idées que n'importe qui sur le sujet de l'inflation. En France, si vous interrogez un économiste, si vous interrogez Jean Tirole et qu'il vous dit que je n'ai aucune idée sur l'inflation, on va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce type-là? Donc c'est très, votre anecdote sur Cédric Villani est très très caractéristique de la France.
Absolument. Je précise, j'ai oublié de le dire, que Cédric Villani a été effectivement lauréat de la médaille Fields. Oui. Il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans de cela, je crois. Vous me tendez une très bonne perche, en fait, en parlant d'économie, parce que, de la même façon que vous êtes passé, finalement, des mathématiques, qui sont une science, pour le coup, d'une très grande abstraction, c'est vraiment de la pensée, et vous êtes passé des mathématiques à l'économie. De même, quand vous étudiez la philosophie, on voit bien que vous vous intéressez énormément aux concepts, mais que si ces concepts ne doivent pas trouver leur réalisation dans le concret, ça vous intéresse peut-être d'ailleurs un peu moins. C'est peut-être pour ça que vous êtes à l'Académie des sciences morales et politiques, qui sont peut-être le versant plus actif, plus pratique, en fait, de la philosophie. Et donc, je voulais que vous nous disiez comment, dans votre parcours, vous êtes passé de cette passion, quand même, des concepts, à l'idée que ces concepts ne peuvent nourrir votre quête de sens que s'ils sont, matérialisés dans des sciences plus pratiques, plus immédiatement en prise avec le réel, Thierry de Montbrial.
Alors, je vais vous faire d'abord une réponse indirecte, puis la réponse directe. La réponse indirecte, c'est que, de même que je crois que tout a un sens, où rien n'a un sens, je crois que tout homme, ou toute femme, tout être humain, a une vocation sur cette terre, une mission. Bon. Alors, mission, c'est un mot un peu grandiloquent, mais ça peut être énormément de choses, la mission. Ça peut être un jour d'enfanter du futur Einstein. La mission, on ne la connaît pas tout de suite. Et cette mission, alors, bien sûr, elle peut, là encore, être révélée très tôt, mais elle peut aussi venir après une lente maturation. Tous les cas de figure sont possibles. Alors, dans mon cas, j'ai eu le sentiment, pendant des années, même des décennies, de vivre d'une manière un peu éclatée, si vous voulez, c'est-à-dire avec des aspirations multiples, un peu contradictoires. Alors, en effet, je suis parti des mathématiques pures. D'ailleurs, l'un de mes maîtres, qui est très connu, Laurent Schwartz, lui aussi, qui a eu la médaille Fields, qui était mon professeur, puis ensuite mon collègue à l'école polytechnique, voulait que je me lance dans une carrière mathématique. Mais moi, je sentais que ça ne me suffisait pas. Il faut se connaître soi-même. Je pense que j'aurais été malheureux, probablement, si je m'étais lancé dans une carrière pure de ce type. Et j'étais attiré par l'histoire, par des choses, par l'action, et apparemment contradictoire. Alors, je suis d'abord passé des mathématiques pures aux mathématiques, à l'économie mathématique, à la théorie pure. Et mon maître, Gérard Debreu, dont je vous parlais, a eu le prix Nobel comme le pape de l'économie mathématique. Et c'est d'ailleurs ça, cet enseignement-là, que j'ai lancé aussi à l'école polytechnique, etc. Puis, l'économie mathématique, j'ai passé à l'économie beaucoup plus appliquée. Et puis, les circonstances qu'on n'a pas le temps de raconter en détail ont fait qu'à l'âge de 30 ans, d'ailleurs en 1973, j'ai été le premier directeur du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, où l'économie appliquée avait une place centrale. Mais là, j'ai commencé aussi à m'intéresser à toutes les questions stratégiques, qui d'ailleurs reliaient, ce serait une autre conversation là aussi, l'économie mathématique. Il y aurait beaucoup de choses intéressantes à raconter là-dessus. Et puis, j'ai créé ensuite l'Institut français des relations internationales, puis plus récemment la World Policy Conference. Mais là aussi, c'était des défis en matière d'action. Parce que dire on va faire quelque chose, c'est bien, mais le faire effectivement, c'est autre chose. Et là, je vous citerai Bergson, que j'aime beaucoup. Hein. Bergson est l'un de mes...
Oui, vous le citez assez souvent.
L'une de mes grandes références. Mais il dit quelque part, penser est facile, agir est difficile, mais agir selon sa pensée est ce qu'il y a de plus difficile au monde. Et de fait, la pensée, alors les pensées pures, les concepts, etc., ça continue de me passionner, mais ça tourne assez rapidement en rond, et je pense que les plus grands philosophes se sont parfois égarés dans une abstraction sans finalité, ce qui n'existe pas en mathématiques, entre parenthèses. Bon. Et agir sans avoir réfléchi à ce qu'on faisait et aux finalités de ce qu'on faisait, c'est également assez stérile. Moi, ce qui, au fond, est ma vocation, c'est de mettre les deux ensemble. Et dans cette phase de ma vie, je pense avoir fini par trouver mon chemin.
Alors, quelle forme prend votre faire? Après, on reviendra sur la philosophie du faire qui est la vôtre. Mais quelle forme elle prend? Alors, vous créez des instituts, etc., mais d'aucuns pourraient vous dire, créer un institut de recherche, au fond, est-ce que ça va changer quelque chose à la crise, résoudre nos problèmes économiques, les difficultés que nous avons à nous insérer dans le concert mondial des nations, etc. Vous avez de très beaux textes sur la France, qu'est-ce que c'est que la France, quelle est la politique de la France, quelle est la place de la France dans le monde. Et on voit bien que vous êtes nourri de toute une série de réflexions, mais est-ce que ça débouche sur une pratique vraiment pratique? Est-ce qu'on vous écoute de temps en temps, Thierry de Montbrial?
Alors, je vais vous dire, d'abord, la question que vous posez, c'est celle de l'influence. Bon, rien n'est plus difficile à définir que l'influence, parce que c'est très facile de la ramener. Hein. Moi, je pourrais faire mon éloge et ce serait lamentable. Bon, je crois que l'influence est extrêmement difficile, mais vous avez employé le mot écoute. Je pense que le premier trait de l'influence, c'est justement d'avoir accès et d'être écouté. Ensuite, de savoir ce qu'on en fait, c'est autre chose. Bon. Mais pour prendre l'Institut français des relations internationales, qui est à la fois en effet un institut de recherche, mais un institut de recherche qui est très branché justement sur l'action, c'est-à-dire des chercheurs qui sont des chercheurs de terrain, qui connaissent les acteurs. Bon. Et nous recevons par ailleurs toutes les grandeurs d'établissement. Je ne dirais pas les grandes secondes, parce que la notion de grandeur, enfin ce que Pascal appelait en tout cas les grandeurs d'établissement. D'ailleurs, le mot establishment. Par exemple, j'ai reçu la semaine dernière M. Rohani, le président de... Et c'est un exemple parmi 100. Vous savez, toutes ces choses-là, recevoir, parler, écouter, avoir accès, c'est-à-dire vouloir rencontrer n'importe qui dans le monde et être reçu, etc., ce sont les problèmes d'accès, les problèmes d'écoute. Bon, ensuite, comment est-ce que tout ceci germe dans la tête des gens? C'est une autre affaire. Je racontais aussi une anecdote. Un jour, je me trouvais dans une cérémonie religieuse, pour des raisons familiales, je m'ennuyais un peu, comme ça arrive souvent. Et puis j'écoute, donc dans une église chrétienne, catholique, un jeune prêtre qui fait un sermon magnifique. Bon. Mais devant un public qui manifestement pensait à la mondanité qui allait suivre. Bon. Moi, j'étais beaucoup plus âgé que ce jeune prêtre. Je vais le voir après. Et je lui dis, je ne pense pas l'avoir appelé mon père, parce que c'est un peu gênant d'appeler un homme plus jeune que soi mon père, mais ça c'est un détail. Je lui dis, écoutez, vous avez magnifiquement parlé, vous devez de temps en temps vous dire, mais à quoi ça sert ce que je fais, etc. Mais dites-vous bien qu'il y avait peut-être dans cette audience une personne que vous ne connaîtrez jamais, sur qui votre parole a porté, et non seulement elle va porter, mais peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans 10 ans, parce que peut-être que dans 10 ans, il y aura une espèce de choc qui fait qu'il se remémorera cette parole. Et je crois qu'il était très touché. Mais si j'ai dit ça, c'est parce que je l'ai pensé 100 fois pour moi-même. Quand vous faites un cours, quand vous rencontrez quelqu'un, il ne faut jamais attendre un résultat immédiat. Alors pour revenir aux institutions comme l'IFRI ou comme la World Policy Conference, c'est tout de même un peu plus facile parce que vous avez aussi beaucoup de gens, les gens entre guillemets influents se rencontrent beaucoup eux-mêmes, etc. Finalement tout ça, vous retrouvez ces idées qui germent individuellement, collectivement, vous les retrouvez dans des articles, dans des chroniques et dans le monde entier et tout ça finit par avoir un certain impact. Mais hélas, il y a aussi toutes les forces qui vont en sens inverse, vous comprenez, il y a le bien et il y a le mal. Et comment, quel est le résultat de cette tambouille, ça c'est une autre histoire.
Oui, c'est en fait là où je voulais en venir, c'est que finalement, pour vous, c'est vraiment la pratique, je dirais, prend ce que vous appelez la pratique, une philosophie de l'action, prend la forme de la transmission, de l'écoute, en effet, de l'échange. Vous n'avez jamais été tenté par quelque chose de, par exemple, de prendre des responsabilités politiques ou de tenter d'influer sur les lois, les décisions, etc. Est-ce que vous avez jamais été tenté par ça ou est-ce que vous pensez que de toute façon, c'est pas conciliable? À un moment donné, vous faites tout un développement dans votre livre sur l'idée que dans la République, vous avez cité Platon tout à l'heure, Platon prétend que finalement la meilleure cité serait celle qui serait gouvernée par un philosophe, mais en réalité, on sait très bien que c'est très peu arrivé, et quand c'est arrivé, c'était une catastrophe. Donc est-ce qu'on peut concilier les deux? Est-ce que vous avez déjà été tenté, en tant que penseur, à un moment d'entrer dans l'action, Thierry Montréal?
D'abord, là encore, je vous réponds en deux temps. D'abord, le dernier livre, Mon journal d'une quête de sens, qui est un extrait, en fait, d'un journal beaucoup plus vaste, je l'ai titré Une goutte d'eau et l'océan, c'est un clin d'œil à Mère Teresa, parce que je crois que tout ce que nous faisons, et que vous soyez le président de la République française, ou le balayeur, quelque part, ce n'est qu'une goutte d'eau. Mais dans l'océan, mais sans cette goutte, c'est ça le mot de Mère Teresa, l'océan serait différent, c'est-à-dire qu'il manquerait quelque chose à l'océan. Bon, ça c'est ma conviction fondamentale. Alors, ayant dit cela, et ça c'est l'autre point, je crois qu'il faut, je reviens à l'idée de se connaître soi-même. Bien sûr que j'étais assez en vue en fait dans mon très jeune âge, j'avais le très jeune temps, disons que j'étais un peu sous les feux de la rampe, et donc j'ai eu beaucoup de, entre guillemets, propositions d'entrer en politique. Mais j'ai assez rapidement compris que ça n'était pas ma vocation justement. Là aussi ça mériterait de plus amples développements. Mais vous venez de dire que être en politique, c'est la manière de pouvoir influer sur les lois, ceci et cela. Et là, je me permets d'être en désaccord avec vous, parce que je pense qu'en étant à l'extérieur et en étant justement dans ces organisations et ces schémas d'influence, on va avoir justement de l'influence sur ceux qui mettront en œuvre ces idées qui ne sont pas les leurs. Et je crois que c'est Keynes, le fameux économiste, qui disait, dites-vous bien que dès que vous voyez une politique se mettre en place, en économie en particulier, eh bien, il y a quelqu'un qui l'a pensé 15 ou 20 ans plus tôt. C'était l'une des grandes idées de Keynes. Et il avait fondamentalement raison. Moi, si vous voulez, je me situe un peu entre les deux.
Eh bien, en fait, tout ce que vous venez de dire sur la goutte d'eau et l'océan et l'action et le fait qu'on ne sait pas d'ailleurs parfois ce que cette goutte d'eau deviendra, m'a fait penser à... En vous lisant, en fait, j'ai souvent pensé à Jaurès, à Jean Jaurès, et en particulier à son discours à la jeunesse d'Albi, alors qui est un très long discours. Je recommande vraiment aux auditeurs de le lire en entier, parce que c'est magnifique, du début à la fin, c'est vraiment du très très grand Jaurès. On se prend quand même à rêver d'avoir des hommes politiques de cette trempe-là, enfin, on n'en connaît pas beaucoup. En tout cas, j'ai juste pris un extrait, vous allez voir pourquoi ça fait écho à ce que vous venez de dire. Le courage, c'est d'être tout ensemble et quel que soit le métier, un praticien et un philosophe. Le courage, c'est de comprendre sa propre vie, de la préciser, de l'approfondir, de l'établir et de la coordonner cependant à la vie générale. Le courage, c'est de surveiller exactement sa machine à filer ou à tisser pour qu'aucun fil ne se casse et de préparer cependant un ordre social plus vaste et plus fraternel où la machine sera la servante commune des travailleurs libérés. Le courage, c'est d'accepter les conditions nouvelles que la vie fait à la science et à l'art, d'accueillir, d'explorer la complexité presque infinie des faits et des détails, et cependant d'éclairer cette réalité énorme et confuse par des idées générales, de l'organiser et de la soulever par la beauté sacrée des formes et des rythmes. Le courage, c'est de dominer ses propres fautes, d'en souffrir, mais de n'en pas être accablé et de continuer son chemin. Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille. C'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il lui en réserve une quelconque. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques.
France Culture, Les Racines du Ciel, Lélie Onvar.
Thierry Monbrial, vous comprenez pourquoi j'ai choisi ce texte. J'ai l'impression que chacune de ces phrases, j'en trouve un écho dans tout ce que vous écrivez.
Totalement. Et il y a d'ailleurs... j'ai d'autres textes en tête qui rentrent en résonance. Il y a de Rudyard Kipling, Tu seras un homme, mon
bien
fils,
sûr, que
vous connaissez,
aussi,
mais qui est exactement.
C'est plus célèbre.
Alors, celui-là, surtout avec la traduction en français d'André Mauroy, qui est là, il y a plusieurs. Je pense aussi à des phrases de général MacArthur, celui qui a été l'homme de la guerre de Corée, enfin tout ça. Mais ce texte est magnifique et en particulier. Il y a ce mot qui est très connu aussi de Jaurès, je pense qu'il a dû le dire avant, ailleurs, sous d'autres formes. Il faut aller à l'idéal, mais en comprenant le réel.
En comprenant le réel, absolument.
Et ça, c'est aussi tout à fait fondamental, parce que beaucoup de gens font le contraire. C'est-à-dire qu'ils ignorent le réel et ils cherchent à plaquer leur idéal sur un réel, et ça ne colle pas. Et justement, dans la philosophie de l'action, il faut avoir la dimension, le temps est extrêmement important. D'ailleurs, le temps est un de mes thèmes récurrents, bien entendu. Et parfois, pour arriver au but et tendre vers l'idéal, il faut prendre des chemins de traverse. Et on ne peut pas faire autrement. Et je crois que c'est l'un des points que Jaurès avait très bien compris. Alors Jaurès était un homme extrêmement inspirant, qui avait en plus un style magnifique. Il n'a jamais exercé le pouvoir.
Oui.
Il a été. Alors effectivement, si vous voulez, être député, être parlementaire, être journaliste d'ailleurs, puisqu'il était un peu tout ça. Mais c'est une forme d'action, mais qui n'est pas dans la réalisation effective, c'est pas la même chose que de conduire effectivement le train ou d'exercer les fonctions de Premier ministre ou de Président de la République ou autre. Mais, et d'ailleurs, nul ne sait, j'ai lu récemment une biographie de Jaurès qui était très intéressante parce que l'auteur montre que la célébrité de Jaurès, la vraie célébrité de Jaurès, c'est justement après sa mort.
Oui.
Ce qui fait que l'on cite toujours Jaurès, c'est peut-être lié à cet assassinat. Et au fond, c'était peut-être là son destin, à lui.
Oui, et puis d'être assassiné en plus parce qu'il était une voix de la paix, qui est aussi un autre thème qui vous est extrêmement cher, puisqu'au fond, vous avez créé cet institut de français des relations internationales, en ayant aussi comme optique cette idée que peut-être par le dialogue, par l'échange des idées, etc., on pourrait quand même amener à, je dirais, à penser la paix, mais en partant à nouveau du réel, non pas en partant d'idées idéalistes, ce qu'on a reproché à Jaurès, à mon avis à tort, d'ailleurs. Je pense que c'était un défenseur de la paix qui n'était pas un pacifiste bêlant, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Et en tout cas, un autre point commun entre Jaurès et vous, c'est ça, c'est cette idée que la paix, ça se construit à travers aussi une vraie connaissance des forces en jeu au niveau mondial. Alors, de nos jours, c'est particulièrement
fort. À travers cette connaissance, et j'ajouterais à travers des institutions, parce que les institutions sont comme des roseaux. L'autre jour, j'étais en Israël, et j'en voyais les gens orthodoxes, d'ailleurs, devant le mur des Lamentations, et j'interrogeais la personne qui m'accompagnait sur le sens de cette gestuelle, etc. Et j'ai pas eu le temps de vérifier depuis, mais la réponse que j'ai entendue, que j'ai trouvée très belle, c'était c'est le mouvement des roseaux. L'homme le plie sous le vent, sous les chocs, mais il ne rompt pas. Bon. Et les institutions, c'est ça, parce que on voit bien dans notre époque en particulier le rôle des passions. Moi, je suis un homme passionné qui déteste les passions. C'est-à-dire que je ne vois que trop ce que les passions ont de dangereux, parce qu'elles risquent de nous mener dans le fossé. Et quand vous regardez la politique internationale aujourd'hui, que de passions amplifiées d'ailleurs par les Internet, les médias sociaux, les réseaux sociaux, etc., etc. Les institutions ne permettent certainement pas de résoudre les problèmes, mais permettent de freiner les passions, de les amortir, comme la grammaire permet aussi de freiner les aventures du langage. Et j'y crois beaucoup, et les institutions qui forcent en particulier les gens à se rencontrer, à se parler, à s'écouter, la fameuse tolérance, etc., etc. C'est très important, la tolérance, mais c'est pas un mot. Tolérance, ça veut dire se taire à un certain moment et écouter les autres, chercher à comprendre ce qu'il y a entre eux et ce qui et la structure qui se trouve derrière la pointe de l'iceberg. Alors oui, donc tout cela, je l'ai profondément en moi, mais là, il faut avoir la foi. Parce que dans le monde actuel particulièrement, si on n'a pas une foi extrêmement solide, chevillée au corps, on peut être déçu. Et d'un autre côté, quand on voit l'histoire de cette planète, quand on voit par exemple tout ce qu'ont pu souffrir les gens qui ont traversé des périodes extrêmement difficiles sous le communisme, certainement dans le pays comme l'Iran et bien d'autres, et qu'on voit au bout de quelques décennies ce que cette résistance, finalement, sous toutes ses formes, a pu donner de fruits, on peut en conclure que oui, ça vaut tout de même la peine de persévérer, même quand la situation peut paraître désespérée.
Oui, alors ça, c'est aussi un trait chez vous qui m'impressionne, parce que dans votre journal, vous racontez évidemment tous les voyages que vous faites, tous les gens que vous voyez, etc. Donc on voit quand même que vous êtes en prise directe avec le monde tel qu'il va, précisément le réel. Et je me demande, moi, comment vous faites pour rester optimiste? Parce que déjà, moi, je ne regarde plus la télévision parce que ça me déprime. J'essaye de même pas me mettre au courant des informations de temps en temps, parce que je trouve que si on est trop au courant, c'est très difficile de rester optimiste. Alors vous, c'est le contraire. Plus vous êtes au courant, et plus finalement votre optimisme est aiguillé, je dirais, est aiguillonné, pardon.
Oui, vous savez, tout le monde connaît, vous savez, ce mot de Gramsci, il faut avoir le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Bon, il y a un peu de ça, mais c'est là où la notion de foi Et alors, quand je parle des notions de foi, moi j'ai une religiosité qui est très large, hein, c'est-à-dire que...
Mais très présente néanmoins.
Oui. Non, très présente, quand je dis très large, ce que je veux, très présente, mais quand je dis très large, je veux dire que je souscris volontiers à ce mot du Dalai Lama, si on se représente Dieu comme le sommet d'une montagne qui est un point, il y a de nombreux chemins pour y parvenir. C'est-à-dire que bien sûr, la religion, le christianisme est la religion dans laquelle j'ai été élevé et que j'essaye de comprendre, qui est d'ailleurs extrêmement difficile en réalité, mais je m'intéresse aussi beaucoup au judaïsme, je dirais, c'est les racines de la... Mais j'essaye de comprendre un peu l'islam, mais je m'intéresse énormément aussi aux traditions religieuses orientales. Par exemple, pour moi, le taoïsme ne pose aucun problème. Je me sens très à l'aise avec le taoïsme, curieusement. Pour moi, un jour, un ami m'a dit, je crois que je le mentionne dans mon journal de quête de sens, dans ma goutte d'eau, comme je l'appelle, l'hindouisme est un monothéisme. Et j'avais été un peu surpris, mais je pense qu'il a raison, parce que si vous prenez l'hindouisme au niveau philosophique le plus profond, c'est en effet un monothéisme. Maintenant, s'il existe de nombreuses déités ou dieux, c'est parce que chacun peut choisir en fonction de son tempérament, etc. Mais l'image de Dieu est tout de même une image unique. Et ainsi de suite. Donc moi, j'ai cette religiosité-là, ce qui nous ramène au point de départ, c'est-à-dire la question du sens. Et je pense que le bien et le mal, on parle de bien et le mal, qui pose des problèmes philosophiques et théologiques d'ailleurs énormes. Mais sur cette question que vous ne m'avez pas posée, je dirais que je crois un peu naïvement qu'il y a eu, dans cette réalité qui nous échappe, dans cette surréalité qui nous échappe, il doit y avoir un drame cosmique que nous ne pouvons pas nous représenter. Et moi, je me représente le problème du bien et du mal, faute de me le représenter en vérité, je me le représente comme le résultat de quelque chose, d'un drame cosmique qui nous échappe totalement. Et je suis très à l'aise aussi conceptuellement, les notions de réincarnation, de vie multiple, etc., ne me posent pas de problèmes fondamentaux, parce que derrière tout cela, il y a le fait que nous sommes emprisonnés dans le langage par les données immédiates de notre conscience, en particulier par la représentation du temps et de l'espace, mais la représentation du temps et de l'espace qui nous contraint dans notre manière d'expression et beaucoup des difficultés que nous avons pour comprendre les autres traditions spirituelles ou religieuses viennent de là. Et puis naturellement le problème de la conscience avec un grand C, la conscience dans ce qu'elle a de plus indéfinissable, et non pas conscience de quelque chose, mais la conscience qui fait que nous pensons, là actuellement en vous parlant, je pense que vous n'êtes pas un robot, et probablement la réciproque.
Oui, j'espère que nous ne sommes pas des robots. Et d'ailleurs, vous parlez beaucoup de... Puisque vous avez parlé de cette religiosité large, j'y viens. On n'aura pas trop le temps de parler du temps, mais
hélas.
Voilà, mais je renvoie...
Le temps, les... du temps, oui.
Voilà, justement, mais je renvoie les auditeurs à votre livre. Alors, vous avez une magnifique étude, justement, qui est une sorte de vagabondage autour de Proust. J'avais pensé qu'on aurait le temps, justement, d'en parler. Et ce n'est pas grave, c'est vagabondage autour de Proust. Je renvoie nos auditeurs à ce texte qui est donc publié dans ce recueil, en fait, publié par l'Academia Romana. Pour finir, je voulais, puisque vous avez parlé de cette diversité des religions, venir à un problème qui est évidemment une question très brûlante de nos jours. Parce que vous pensez, vous, qu'on pourra arriver à un point d'accord entre islam, christianisme et judaïsme au sein de l'Europe. Vous êtes un pan-européen tout à fait convaincu. Et que finalement... on est en train de traverser un moment qui est un moment évidemment très douloureux, évidemment qui semble être un moment de très grande division, voire de haine réciproque. Mais vous croyez vraiment que nous avons la possibilité, avec les valeurs humanistes qui nous habitent, de traverser cette crise et de réconcilier finalement ces trois monothéismes au sein de notre culture, Thierry de Montbrial?
Il le faut. Et comme nous n'avons pas le temps, je me contenterai d'une phrase. Je pense que chacune de ces grandes religions doit retourner à la source, c'est-à-dire à l'aspect proprement religieux, à la spiritualité, et oublier, essayer de mettre au second plan tout ce qui est d'ordre ethnique, tout ce qui est d'ordre sociologique, tout ce qui est d'ordre politique, rapport de force, de pouvoir, et plus encore la manipulation, évidemment, des religions à des fins de pouvoir. Voilà, donc il le faut, et je constate que c'est ce que fait l'Église catholique. J'essaye de faire ce qu'essaie de faire l'Église catholique avec le pape François, mais ses prédécesseurs avaient un peu commencé, j'espère que dans les années qui viennent, on verra, on entendra des voix de plus en plus audibles aussi du côté de l'islam.
Eh bien, Thierry de Montbrial, que si j'osais, je dirais que Dieu vous entende, puisque vous parliez d'écoute, et peut-être que ça aurait une certaine influence, cette pensée que vous avez. J'espère vraiment que ce sera vrai, mais que ça deviendra réalité, mais je...
Mais vous avez du mal pour l'instant.
Oui, j'ai du mal pour l'instant à voir cet horizon lumineux que vous nous présentez, mais je ne veux que y croire, évidemment. En tout cas, merci beaucoup, et je dirais de Montbrial, le temps a passé très très vite, on n'a pas eu le temps d'aborder tous les sujets que vous abordez dans ce journal, dont je rappelle le titre, « Une goutte d'eau et l'océan, journal d'une quête de sens », publié aux éditions Albin Michel, et puis donc votre recueil de textes, « La pensée et l'action », publié par l'Academia Romana. Alors, je ne sais pas où ça se trouve, ce livre.
Pour l'instant, nulle part, mais ce sera diffusé à partir du mois d'avril,
je pense. À partir du mois d'avril, on pourra le trouver.
Je pense.
D'accord, sur Internet ailleurs.
Plutôt, oui.
D'accord. Très bien. Alors, pour clore cette émission, nous accueillons aujourd'hui Christyla Pelé-Douel, qui est journaliste à Psychologie Magazine, responsable des pages livres, et du prix Psychologie FNAC. Et nous la recevons dans le cadre de notre partenariat avec ce prix, Psychologie FNAC. Bonjour Christyla Pelé-Douel.
Bonjour.
Merci donc d'être venue nous parler de ce prix. Expliquez-nous ce que c'est et qui en est le lauréat cette année.
Alors, le prix Psychologie FNAC existe maintenant depuis une dizaine d'années. Et ce prix a été lancé dans l'idée de permettre de pousser en avant un livre qui aurait pour, non pas pour mission, mais en tout cas pour idée de permettre à chacun des lecteurs de mieux vivre sa vie. Alors, c'est évidemment très large, hein, il ne s'agit pas de couronner des manuels pratiques, mais plus exactement d'ouvrir la porte à des livres qui permettent à chacun de trouver de quoi nourrir sa pensée et surtout ouvrir sa pensée. Voilà. Donc c'est un programme vaste et jusqu'à maintenant, nous avons eu la grande chance de pouvoir couronner des gens qui poursuivent maintenant une route tout à fait remarquable, comme Christophe André, qui a été un des premiers lauréats.
Oui, et que nous avons reçu ici plusieurs fois.
Voilà, Alexandre Jolien, qui n'est pas un des moindres, mais certainement un des plus charmants.
Ça, c'est sûr. Là aussi, on l'a reçu il y a quelques semaines.
Voilà, et bien d'autres, comme Serge Effès, je ne suis pas sûre que vous l'ayez reçu, mais en tout cas, tous les lecteurs le connaissent. Ilios Kotsou, qui était le lauréat de 2015, et puis le lauréat de cette année, dont nous sommes très très fiers, qui est Jean-Claude Carrière, que vous allez recevoir et qui a écrit un livre pour ce livre absolument remarquable qu'il a publié cette année et qui s'intitule « Croyance au singulier ».
Croyance au singulier, en fait, il parle du phénomène de croyance.
Exactement.
Hein, qu'est-ce qui nous amène à croire dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs.
Voilà, il creuse cette notion de croyance au singulier, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de croyances religieuses, d'ordre religieux, ou de croyances politiques également, puisque la croyance, voilà. Quel est ce phénomène qui pousse, quel que soit le temps, quels que soient les siècles, qui pousse les êtres humains à croire en quelque chose.
Oui, et d'ailleurs, voilà. Tout à l'heure, Thierry Montbrial parlait de foi. Il ne parlait pas que de foi religieuse. C'est
oui,
vrai
oui,
qu'il faut avoir foi dans ce que l'on fait, sinon on n'a pas de moteur pour l'action, d'une certaine façon.
Voilà, alors ce qui est vraiment passionnant, évidemment, on connaît Jean-Claude Carrière, sa culture absolument renversante, encyclopédique, mais nourrie d'humanisme, et ce livre est... est absolument enthousiasmant. Chaque page est l'occasion de réfléchir, d'approfondir sa pensée, de partir vers d'autres lectures, vers la peinture, vers la musique, vers le théâtre, évidemment, puisque c'est un homme de théâtre. Et donc, je ne saurais trop... D'abord, nous sommes extrêmement fiers d'avoir couronné ce livre, qui est remarquable à tous égards. Et puis, le couronnement, enfin, le prix a été décerné à un moment particulièrement difficile et douloureux, puisqu'il a été décerné le 8 décembre, soit à peine un mois après les attentats de novembre. Et ça a été particulièrement remarquable, puisque le jury est composé à part égale de lecteurs, internautes, de journalistes du magazine et de libraires de la FNAC, et qu'il y a eu une espèce de mouvement qui a porté ce livre en tête de tous les autres candidats, qui étaient aussi formidables. Mais celui-là a vraiment emporté tous les suffrages, et on sentait dans les débats qu'il avait apporté à chacun des membres du jury quelque chose de particulier, quelle que soit la position idéologique ou religieuse de chacun. Et il y a eu une espèce de consensus qui était vraiment magnifique, et je pense aussi que c'est un livre qui est consolateur d'une certaine façon.
Eh bien, en fait, c'est la raison pour laquelle la semaine prochaine, eh bien, nous serons chez Jean-Claude Carrière.
Vous avez bien de la chance.
Voilà, pour un nouveau volet de la série Grand Témoin. En fait, je me suis dit que, au lieu de juste de l'inviter pour parler juste d'un livre, c'était une très belle occasion que ce partenariat de l'inviter à témoigner dans cette série particulière, parce que c'est effectivement un des grands témoins de ce siècle écoulé, de ce début de 21e siècle. Il nous parlera de ce livre, bien sûr, mais aussi de sa vie, de sa longue carrière, de ses croyances à lui aussi, tout simplement, et peut-être de sa foi chevillée au corps dans la vie. Merci en tout cas, Thierry de Montbrial, de votre présence. Merci, Christina Pelé-Douel.
Merci à vous.
C'était Les Racines du Ciel, une émission de Lily Anvar. Tout de suite, nous retrouvons Frédéric Lenoir pour continuer avec lui ses chemins de sagesse.
À la suite de Spinoza et de Nietzsche, il y a un grand philosophe au XXe siècle de la joie qui est Henri Bergson. Alors Henri Bergson est à l'origine un scientifique, un mathématicien hors pair, qui aurait pu devenir un grand scientifique, aussi un très grand connaisseur de la biologie, mais ça va devenir un philosophe, et un philosophe qui va notamment particulièrement s'appuyer sur la biologie, sur la connaissance du vivant. Et il va développer toute une philosophie de la vie. Bergson, c'est le grand philosophe du vivant, et son chef-d'œuvre s'appelle L'évolution créatrice, dans lequel il montre que toute la vie est un processus créatif, et que l'être humain participe à ce processus créatif, et dans la mesure où il y participe consciemment, dans la mesure où il est conscient de cette mission d'apporter une création nouvelle à la création en acte, en permanence, dans le développement du vivant, il est dans la joie. La joie est l'expression, finalement, de la création, et c'est parce que nous sommes créatifs, nous participons à la création de la vie que nous sommes dans la joie. Donc toutes les grandes expériences de la joie viennent d'une forme de création, à commencer évidemment par la mère qui enfante, qui est dans la joie de créer, le chef d'entreprise qui crée son entreprise et qui la développe, l'artiste évidemment qui crée. Chaque fois que nous avons un processus créatif à l'œuvre, nous avons les plus grandes joies. C'est pour ça que Bergson nous dit que la nature nous avertit par un signe précis que notre destination est atteinte. Ce signe est la joie. Et chaque fois que nous atteignons quelque chose, que nous dépassons quelque chose, que nous progressons, nous sommes dans la joie. D'ailleurs, Bergson va lier très souvent la joie et l'effort, puisqu'il nous explique que l'effort vient de la matière. Nous avons dans notre esprit la capacité d'inventer, de créer tout. Mais ce qui demande l'effort, c'est la matière. Donc une fois qu'on a une idée, il faut, par exemple, un écrivain a une idée, il va falloir qu'il écrive son livre. Et ce qui va lui demander un effort, c'est d'écrire son livre. Un savant peut avoir une idée géniale, après il faut le prouver dans l'expérience. Et donc c'est la confrontation avec la matière qui nous demande un effort, et c'est parce que on va traverser cette pénibilité de la matière, parce qu'on va faire cet effort pour que cette idée puisse aboutir, et que on va avoir ce signe, cette récompense qui est la joie. La joie vient souvent d'un effort surmonté. Ce qui est vrai d'ailleurs dans presque tous les domaines, et pas uniquement le domaine créatif. On voit que lorsqu'on fait un effort pour apprendre quelque chose et qu'on aboutit, on est dans la joie. Lorsqu'on fait un effort sportif et qu'on réussit, on est dans la joie. Donc la joie est quand même liée effectivement à cette progression, à cette capacité qu'on a de grandir. Et on rejoint l'idée fondamentale de Spinoza, que la joie est une croissance. Vous savez, Spinoza définit la joie comme ce passage d'une moindre à une plus grande perfection, qu'il y ait un perfectionnement, le fameux conatus, qui fait que chaque être vivant fait un effort pour persévérer et grandir. Chaque fois qu'il grandit, il est dans la joie. Chaque fois qu'au contraire, il ne peut pas grandir, il ne peut pas se développer, il est dans la tristesse. Donc, d'ailleurs, Bergson est très spinoziste, il le reconnaît, puisqu'il dit « il n'y a au fond que deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza ». Ce qui est une manière de rendre hommage à Spinoza en disant que c'est effectivement l'un des plus grands philosophes de tous les temps. Et Bergson s'inscrit profondément dans la philosophie de Spinoza en lui apportant cette touche qui est liée à la notion de création. Et puis, Bergson apporte une distinction extrêmement intéressante entre le plaisir et la joie. Il nous dit, dans l'énergie spirituelle, « Le plaisir n'est qu'un artifice imaginé par la nature » pour obtenir de l'être vivant la conservation de la vie. Il n'indique pas la direction où la vie est lancée, mais la joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire. Toute grande joie a un accent triomphal. Alors c'est très intéressant, puisque c'est une chose auquel j'avais jamais pensé, et pourtant ça semble très juste une fois qu'on l'a entendu. Le plaisir est lié à la conservation de la vie. Au fond, si on n'avait pas de plaisir à manger, peut-être qu'on ne penserait pas à manger et on mourrait. Si on n'avait pas de plaisir à boire, on oublierait de boire et on dépérirait. Si on n'a pas de plaisir à faire l'amour, c'est une évidence, on ne ferait pas l'amour, on ne se reproduirait pas. Et donc la nature a inventé le plaisir comme une ruse, c'est ça, très intéressant, nous dit Bergson, a inventé le plaisir pour nous permettre de mener des expériences de satisfaction qui en fait sont nécessaires à la survie de l'espèce. Alors aujourd'hui, évidemment, on n'y pense plus du tout et on va chercher du plaisir dans l'alimentation, un bon repas, un bon vin, etc. Et tout, on fait l'amour avec plaisir. Tout le plaisir a débordé le cadre de la stricte reproduction d'espèces, mais c'est toujours lié à des formes d'expérience qui sont à la base liées effectivement à la survie de l'espèce. Et je dirais que les gens qui n'ont pas de joie vont rechercher une intensité dans le plaisir. Et on voit beaucoup de gens qui, finalement, n'étant pas ouverts à la joie, dont je dis souvent qu'elle nous tombe dessus lorsqu'on a le cœur ouvert, lorsqu'on est tourné vers les autres, lorsqu'on cherche à grandir, eh bien ces gens-là, qui sont plutôt centrés sur eux-mêmes, vont chercher des plaisirs, des intensités de plaisir, des multiplications de plaisir, parce qu'ils n'ont pas accès à la joie. Et à travers toute cette intensité de plaisir, c'est la joie qu'ils recherchent. Je suis persuadé que lorsqu'on est dans une quête effrénée de plaisir, c'est la joie qu'on recherche. On recherche une expérience absolue. On recherche quelque chose comme une destination, comme nous dit Bergson, mais comme on ne sait pas comment trouver la joie, puisque peut-être la porte de notre cœur nous est fermée, ou les portes de la joie nous sont fermées, qui nous amènent à nous ouvrir, ou à l'autre, ou à une transcendance. Finalement, on reste centré sur des expériences que nous connaissons, et c'est à travers leur multiplication ou leur intensification qu'on recherche ce dépassement, cet accomplissement profond de la vie, que ne peut nous apporter fondamentalement que l'expérience de la joie.
Je rappelle que cette émission peut être podcastée pendant un an et réécoutée pendant 1000 jours sur notre site. Dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture. Quant à moi, je vous souhaite un excellent dimanche à tous.